nous est offerte par cette réalité de foi qui nous est révélée, Marie, corps et âme, élevée dans le ciel. Parce que certes, comme nous l'a expliqué saint Paul dans la deuxième lecture, c'est le Christ qui nous sauve de la mort. C'est lui qui ressuscite. C'est lui qui nous donne la vie pour laquelle nous sommes faits. Dieu ne nous a pas créés sans savoir ce qu'il nous proposait, ce qu'il voulait pour nous. Il nous a créés parce qu'il nous aime et parce qu'il veut pour nous la vie éternelle, c'est-à-dire la communion sainte, lumineuse, bienheureuse à sa propre vie. C'est le Christ qui accomplit cette œuvre de nous sauver du péché et de son salaire, la mort, parce que le péché nous coupe de l'auteur de la vie et du but de la vie, Dieu lui-même. Mais un signe supplémentaire nous est donné par Dieu dans sa miséricorde pour nous, la Vierge Marie, notre mère. Elle est entièrement comme nous, humaine, et elle vit pleinement des dons de Dieu. Elle se laisse conduire, remplir par sa grâce. Elle est notre mère, notre modèle, notre espérance soutenue de la vie éternelle. En elle, Dieu accomplit ce qu'il veut pour chacun de nous. En elle, Dieu préfigure ce qu'il veut pour toute son Église sainte. Marie est donc ce signe lumineux d'espérance. Et il nous faut bien le recevoir en cette année jubilaire du jubilé de l'espérance qui doit nous caractériser, nous autres chrétiens, pas seulement la foi en Dieu, pas seulement la charité, l'union à Dieu qui est amour en acte, mais aussi l'espérance. Alors que notre monde, nous le savons bien, est pris par tant de violences idéologiques, de guerres, d'intérêts et de domination, toutes choses qui engendrent la mort et avec elles le désespoir. La liturgie de cette messe du 15 août va le chanter tout à l'heure dans la préface. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en marche. Et nous en avons une image merveilleuse et bouleversante dans ce passage que nous avons entendu de l'Apocalypse de saint Jean. La femme en train de mettre au monde le Christ, le berger de toutes les nations, qui est à la fois menacé par le dragon qui pourrait impressionner, mais en même temps, elle est déjà victorieuse, couronnée d'étoiles, enveloppée du soleil qui symbolise tout l'amour de Dieu, qui la prend, l'enveloppe. Elle a la lune sous ses pieds. Elle est l'une de nous, de la terre, du mystère de l'Église, mais elle est encore plus grande. Cette femme qui crie dans les douleurs de l'enfantement. C'est Marie qui enfante le Christ. C'est Marie qui enfante le Christ en nous. C'est Marie, mère et modèle de l'Église. C'est l'Église elle-même c'est-à-dire nous-mêmes avec le Christ, qui rayonnons, enfantons la vie même de Dieu en ce monde, maintenant, au milieu de toutes ces tribulations. Parce que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas exempts des mêmes tribulations que tous les autres, mais nous avons cette révélation que Dieu nous donne maintenant, aujourd'hui, dans ces conditions, son salut et sa vie, et que nous avons avec l'Église, dans l'Église, à être témoins pour tous. Ayant montré cet enfantement douloureux et lumineux à la fois, l'Apocalypse nous dit aussi qu'une voix forte proclame, c'est celle que nous avons à recevoir pour nourrir notre espérance, c'est celle que nous avons à proclamer autour de nous. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Voilà, frères et sœurs, l'objet principal de notre espérance. Le salut, la puissance du Christ, victorieux de la mort, n'est pas pour la fin des temps. Ou plutôt, la fin des temps, c'est maintenant, depuis la résurrection du Christ et le don de la Pentecôte. C'est maintenant l'aujourd'hui du salut, c'est maintenant que Dieu nous aime, c'est maintenant que Dieu nous sauve, c'est maintenant qu'il nous appelle, dans toutes les conditions concrètes où nous sommes, à ouvrir notre cœur pour vivre de son salut et de sa grâce. Tant d'épreuves et tant de salut, tant de foi et tant d'espérance. Nous sommes, nous-mêmes, ce peuple encore en marche, qui contemple, qui reçoit, qui regarde cette lumière merveilleuse de l'une d'entre nous, l'une de notre peuple, Marie, Mère du Christ, qui est déjà corps et âme pour l'éternité associée à la vie divine du Christ dans la communion de la Trinité Sainte. Quel don, quelle merveille, quelle lumière, quel réconfort, quelle espérance. Si vraiment nous voulons du Seigneur lui-même, qui sur la croix, en nous rachetant, nous a donné sa mère pour notre mère. Voici ta mère. Si nous voulons vraiment recevoir Marie comme mère, alors nous devons accueillir ce message, accueillir ce salut et cette vie qui font notre espérance aujourd'hui, maintenant. Et nous pouvons aussi recevoir de la Vierge Marie le secret de sa foi et de son espérance, la sagesse de sa vie qui est dans son cœur, mais que le Magnificat nous décrit dans ce chant de louange, d'imploration et d'action de grâce, le grand chant d'espérance que l'Église chante tous les soirs, chaque jour de l'année, au cours des Vêpres. Trois attitudes fondamentales que Marie, notre Mère, nous propose pour que nous puissions grandir dans la sainteté de l'espérance. D'abord, le chant de la Vierge Marie lui-même est un cantique d'action de grâce. La vie de la Vierge Marie n'a pas été plus facile que la nôtre. Les temps où a vécu la Vierge Marie n'étaient pas des temps plus commodes et mieux assurés que les nôtres. Il n'en est rien. Est-ce que Marie vient se plaindre et gémir ? Non. Elle est toute entière dans l'action de grâce, dans la reconnaissance à Dieu pour ses dons, et elle veut lui rendre tous ses dons. C'est l'humilité. Ce mot est répété 3 fois, 4 fois dans le Magnificat pour nous dire que ce que Dieu regarde en Marie et en nous, ce qu'il aime, c'est l'humilité. Parce que l'humilité nous ouvre à être remplis et conduits par Dieu. Parce que l'humilité est le remède à ce mal le plus profond qui nous oppose à Dieu, qui est l'orgueil. Parce que ce que Dieu attend de nous, ce qu'il demande de nous, ce n'est pas que nous soyons saints et remarquables par nous-mêmes, c'est que nous nous laissions conduire par lui, tout comme la Vierge Marie. Une autre chose remarquable, une autre attitude fondamentale de la Vierge Marie dans son Magnificat, qu'elle nous enseigne et dont nous avons besoin tous les jours, c'est d'appeler avec foi la miséricorde de Dieu, non pas uniquement sur nous-mêmes, mais sur tout le peuple de Dieu, sur tous les hommes. Marie chante, rend grâce par avance, appelle la miséricorde de Dieu, non pas pour elle, mais pour tous les hommes que maternellement elle prend dans son sein, dans son cœur, dans sa vigilance, dans son attention, dans sa prière. Marie nous enseigne à demander à Dieu la miséricorde pour nous-mêmes et pour tous nos frères. Parce qu'un secret se cache en elle, une béatitude remarquable, qui est la première que le Seigneur a prononcée dans son sermon sur la montagne, la pauvreté de cœur. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Cette béatitude, la première à la vivre, c'est la Vierge Marie elle-même. Elle est pauvre de cœur, pourquoi ? Elle ne se repose pas sur ses propres richesses. Elle rend tout à Dieu et elle attend tout de Dieu. Il est sa seule richesse. Et c'est cela aussi, frères et sœurs, la vertu théologale de l'espérance. C'est de nous appuyer pour atteindre le bonheur du ciel, non pas sur nos propres forces qui sont si fragiles, mais sur les promesses de Dieu et sur sa puissance et sa fidélité à les réaliser. Marie est la mère et la première des pauvres de cœur qui attendent tout de Dieu et qui, avec une foi sans partage, s'en remettent entièrement à sa miséricorde. L'humilité, la pauvreté de cœur, je retiens aussi parmi toutes les vertus de la Vierge Marie, la charité, bien sûr. Qu'a fait Marie avant de proclamer son Magnificat ? Elle s'est mise au service de Dieu dans la charité. Elle s'est mise au service de Dieu qui est charité. Elle se proclame l'humble servante du Seigneur. Elle veut servir activement son Dieu. Elle n'est pas simplement à le regarder et à espérer en lui. Elle s'implique elle-même dans ce que Dieu demande. Elle se rend disponible et elle se laisse entraîner. Elle est active. Elle va rendre visite à sa cousine qui a besoin d'elle. Vivre comme Marie de l'espérance, de la foi, c'est aussi bien sûr vivre de la charité. Aller au-devant de ceux qui ont besoin de nous. Dieu veut que nous ayons ce bonheur d'être des instruments et des témoins de sa propre miséricorde. Non pas pour nous faire valoir nous-mêmes, mais pour rendre encore davantage à Dieu grâce, parce que lui seul est charité. Demandons à la Vierge Marie ce matin, frères et sœurs, de nous aider à vivre de l'espérance, de vivre dans la lumière de l'espérance, de la propager autour de nous et de cultiver pour cela, pour être davantage envahi de cette lumière, l'humilité, la pauvreté de cœur et la charité en acte. Amen.